Bonjour à chacun. Vous n'avez sans doute jamais entendu parler du premier rendez-vous amoureux de Jeff et Janelle Youngblood. Ça m'étonnerait quand même, mais on ne sait jamais. Janelle était prête, toute belle, pomponnée et impatiente que Jeff passe la prendre chez elle pour leur premier rendez-vous amoureux. Les minutes ont passé, attente interminable. Et après une heure de retard, Janelle a dû se rendre à l'évidence, Jeff ne viendrait plus. Soit il avait oublié, soit il lui avait posé un lapin, comme on dit. Après plus d'une heure de retard, Janelle a décidé qu'il n'était plus raisonnable d'attendre. Alors elle s'est démaquillée, a mis sa paire de pyjamas la plus confortable, a rassemblé dans les placards de la cuisine, le frigo, le congélateur, tout ce qui dépasse les 100 calories à la cuillère, et s'est confortablement installée sur le canapé pour regarder la télé avec son chien. Au moment où son programme préféré allait commencer, la sonnette a retenti. C'était Jeff. Elle lui ouvre la porte et lui la regarde avec de grands yeux étonnés et dit « J'ai 2 heures de retard et pourtant tu n'es pas encore prête !» Être prêt. Il y a des moments dans la vie où il faut être prêt. Prêt à l'heure. L'heure c'est l'heure, dit-on. Avant l'heure, c'est pas l'heure, après l'heure, c'est plus l'heure. Il y a des rendez-vous où la ponctualité est capitale. Et j'aimerais ce matin réfléchir avec vous au rendez-vous du retour de Jésus, que Dieu a fixé à toute l'humanité. Rendez-vous pour lequel l'homme est appelé à se préparer. Rendez-vous pour lequel il est capital d'être prêt le moment venu. Et j'aimerais réfléchir à ce rendez-vous du retour de Jésus à partir d'une parabole bien connue, la parabole des 10 jeunes filles ou des 10 vierges. Et je vous invite à lire avec moi, soit en suivant dans votre Bible, c'est Matthieu chapitre 25, les 13 premiers versets, ou alors en suivant la projection du texte qui va s'afficher, je n'en doute pas un instant. Excusez-moi. Voilà. Alors le règne des cieux sera comme ces 10 vierges qui avaient pris leur lampe pour aller au devant du marié. 5 d'entre elles étaient folles et les 5 autres étaient avisées. Les folles, en prenant leur lampe, n'avaient pas pris d'huile avec elles. Mais celles qui étaient avisées avaient pris avec leur lampe de l'huile dans un récipient. Comme le marié tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri, « Voici le marié, sortez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent à celles qui étaient avisées, « Donnez-nous de votre huile, nos lampes s'éteignent !» Celles qui étaient avisées répondirent, « Il n'y en aurait jamais assez pour nous et pour vous. Allez plutôt vous en acheter chez ceux qui en vendent. » Pendant qu'elles allaient en acheter, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges arrivèrent aussi et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. » Quelques mots tout d'abord sur le contexte de cette parabole. Nous le trouvons au début du chapitre 24 et je lis les 3 premiers versets de ce chapitre. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples vinrent lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur répondit, « Vous voyez tout cela ? Amen, je vous le dis, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Comme il était assis sur le mont des Oliviers, les disciples vinrent lui demander en privé, « Dis-nous quand cela arrivera-t-il ? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Jésus se trouve avec ses disciples sur le mont des Oliviers. Nous sommes une semaine avant la crucifixion. Un peu plus tôt, nous venons de le lire, en sortant du temple, Jésus a annoncé la destruction de celui-ci. Et maintenant, ses disciples s'approchent de lui pour lui demander quand ces choses auront lieu. Et la réponse de Jésus à ces questions, c'est l'ensemble des chapitres 24 et 25 de Matthieu. C'est pas une réponse courte. Et beaucoup de choses sont dites dans ces deux chapitres, où vont s'entremêler plusieurs réalités, comme la fin des temps, la destruction de Jérusalem et de son temple, et le retour de Jésus. Et quand on lit ces deux chapitres, on peut avoir le sentiment que tout arrive au même temps. Et ce sentiment, je pense, vient du fait que tout est annoncé dans une succession comme un événement unique. Alors qu'en réalité, il s'agit d'une succession d'événements. C'est un peu comme regarder une chaîne de montagnes de face. On a le sentiment que tous les sommets sont sur un même plan, alors qu'en réalité, ils se succèdent dans la profondeur, avec des vallées entre eux. Et il en va de même avec le retour de Jésus et les événements qui sont décrits dans ces deux chapitres. Tout n'arrive pas au même temps. La destruction de Jérusalem, en tout cas du temple de Jérusalem, a eu lieu en 70 après Jésus-Christ. Et le Seigneur n'est toujours pas revenu. Concernant le retour de Jésus, deux axes majeurs vont parcourir ces deux chapitres. Le premier, c'est que nul ne sait ni le jour ni l'heure de ce retour. Et le deuxième qui découle de ce premier axe, c'est la nécessité d'être constamment prêt pour ce retour. Je vous ai fait une sélection de quelques verset significatif à ce sujet dans le chapitre 24. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne les connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul, verset 36. Verset 42, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne permettrait pas qu'on fracture sa maison. C'est pourquoi vous aussi soyez prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne pensez pas. Verset 50, le maître de cet esclave viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Avant d'arriver au sens et à l'enseignement de notre parabole, j'aimerais très rapidement et très succinctement dire quelques mots sur ce qu'est une parabole. La parabole, c'est une histoire simple qui va s'appuyer sur le quotidien des auditeurs et qui fonctionne sur le mode de l'analogie, c'est-à-dire le mode de la comparaison. Et c'est ainsi que la très grande majorité des paraboles commencent souvent comme la nôtre, avec une formule du genre « le règne des cieux, le royaume de Dieu sera comme ou est semblable à ». Pour bien comprendre une parabole, il est donc essentiel de bien connaître et de bien comprendre le quotidien de l'époque. Bien connaître et bien comprendre les us et coutumes de l'époque, le contexte social de l'époque, l'agriculture de l'époque, etc. Tout ce qui faisait le quotidien des auditeurs de Jésus à cette époque. Et bien connaître ces choses gardera l'étudiant de la Bible d'injecter dans le texte un sens qui n'y a jamais été. Ça le gardera, entre autres, de faire ce qu'on appelle des anachronismes. Venons-en maintenant à l'histoire de notre parabole. De quoi est-il question ? Que nous enseigne cette parabole ? Que faut-il en retenir ? L'histoire de notre parabole est donc une histoire simple où Jésus va comparer le royaume des cieux, une expression synonyme au royaume de Dieu ou au règne de Dieu, Jésus va le comparer à une fête de mariage. Une fête de mariage à laquelle se préparent 10 jeunes filles, 10 vierges qui attendent le marié. Notons bien que ces 10 jeunes filles ne sont pas les fiancées du marié. Il n'est pas question ici de mariage polygame. Ces jeunes filles accompagnaient très certainement la mariée, lui tenaient compagnie, étaient peut-être à son service ou alors appartenaient à la maison de son époux, ou encore c'était des amis, des voisines. Quoi qu'il en soit, il n'est absolument pas important de savoir qui sont ces 10 jeunes filles pour bien comprendre le sens de notre histoire. 5 de ces vierges sont dites sages ou avisées. Pourquoi ? Parce qu'elles ont prévu assez d'huile pour leur lampe. Les 5 autres sont dites folles parce qu'elles n'ont pas prévu suffisamment d'huile pour leur lampe. Les 5 sages et les 5 folles, toutes les 10, donc attendent l'époux qui tarde à venir. Elles s'assoupissent et elles finissent par s'endormir. Notons aussi que l'endormissement dans cette histoire n'est pas important en soi, parce que les sages, elles aussi, s'endorment. On ne peut pas toujours être sur le qui-vive. Il ne faut pas chercher de sens particulier à l'endormissement. Finalement, l'époux arrive au milieu de la nuit. Les 10 vierges sont réveillées et toutes préparent leur lampe pour suivre l'époux. Les 5 vierges dites folles constatent bien qu'il manque d'huile puisque leur lampe s'éteint, et manquant d'huile, elles cherchent à en emprunter aux sages qui en ont juste assez pour elles. Et pendant que les vierges folles vont acheter de l'huile, les sages suivent l'époux et entrent avec lui dans la salle de noces, et la porte est fermée. Quand un peu plus tard arrivent les 5 vierges folles, elles trouvent porte close. Et l'accès leur est refusé. Et le verdict de l'époux est sans appel. Je ne vous connais pas. Notre parabole se termine avec une exhortation. Veillez donc, puisque vous ne connaissez ni le jour, ni l'heure. L'histoire de notre parabole est donc une histoire simple. Et elle s'appuie sur les coutumes nuptiales de l'époque. En effet, à l'époque, pour ce que nous en savons, il était de coutume que l'époux vienne chercher son épouse chez elle, sa fiancée, chez elle à la tombée de la nuit. Et c'est ainsi que, ensuite, tous repartaient en procession chez l'époux. Une procession où de l'éclairage était indispensable puisque tout cela se passait à la tombée de la nuit ou après la tombée de la nuit. L'éclairage de l'époque était assuré par des lampes à huile, ici certainement des torches, c'est-à-dire des bâtons enveloppés de tissus imprégnés d'huile, plutôt que des lampes à huile sur pied, quand c'est le cas, c'est généralement un autre mot que le mot dans notre texte. Donc il est fort possible que ce soit plutôt des torches, mais peu importe. Une torche bien imprégnée durait brûlait environ pendant un quart d'heure. On comprend donc la nécessité d'avoir une réserve si le parcours à faire est plus long qu'un quart d'heure. Une torche qui manquait d'huile s'éteignait très rapidement après avoir été allumée. Et donc, on comprend toute l'importance de la réserve d'huile dans cette histoire. Avoir de l'huile, avoir de la réserve signifiait pouvoir suivre l'époux chez lui à tout moment. Venons-en au sens de notre parabole. Quel est-il ? Nous l'avons dit, cette parabole parle du retour de Jésus. Elle parle en particulier de la nécessité d'être constamment prêt pour ce retour, dont nul ne peut prévoir ni le jour ni l'heure. J'aimerais, en parlant du retour de Jésus, faire ressortir 5 points de cette parabole. Et la première chose que j'aimerais souligner, c'est que le retour de Jésus nous est présenté comme un événement joyeux. L'analogie qui est utilisée ici, c'est celle du mariage, pas celle d'un enterrement. Le mariage est une fête, et une fête, par définition, c'est joyeux. Le retour de Jésus est donc un moment de fête où l'époux, c'est-à-dire le Christ, vient chercher son épouse, c'est-à-dire l'Église. De nombreux textes que je ne vais pas citer maintenant, de nombreux textes du Nouveau Testament en particulier, utilisent ces deux images pour parler du Christ comme l'époux et de l'Église comme l'épouse. J'aimerais simplement souligner ici que par Église, il faut bien évidemment comprendre toutes celles et ceux qui ont mis leur foi dans l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ, et non pas tous ceux qui vont une fois de temps en temps à l'Église. Notons aussi que cet événement joyeux ne l'est pas pour tous. Les 5 vierges folles qui n'ont pas assez d'huile sont restées en dehors de la fête, en dehors de la joie. Et c'est ici la triste et sombre réalité de ce que la Bible appelle la perdition. Nous parlons souvent de salut, mais si nous parlons de salut, c'est parce qu'il y a aussi une perdition. Sinon, de quoi serions-nous sauvés? Si le retour de Jésus est un événement joyeux, pour ceux qui entrent avec lui dans son règne, c'est aussi un événement tragique pour ceux qui restent en dehors. Et Jésus dira, en parlant de cette réalité du dehors, des ténèbres du dehors, qu'il y aura là des pleurs et des grincements de dents. Si le retour de Jésus est un événement joyeux pour ceux qui sont prêts et qui entreront avec lui dans la noce, c'est aussi, et c'est mon deuxième point, un événement imprévisible. C'est la conclusion de notre parabole. Nul ne sait ni le jour ni l'heure. C'est l'expérience des 10 vierges de notre histoire qui ont été surprises dans leur sommeil par la venue de l'époux. Aux Thessaloniciens, l'apôtre Paul écrit que ce jour du Seigneur viendra comme un voleur. Nous avons lu un texte au chapitre 24, où Jésus utilise cette même image. Que le jour du Seigneur viendra comme un voleur, c'est-à-dire quand personne ne s'y attend. Le sujet du retour de Jésus a toujours fait l'objet de toutes sortes de spéculations dans l'Église et parmi tous ceux qui réfléchissent sur la Bible. Et ces spéculations ont déjà commencé du temps de Jésus. Par exemple, nous lisons au début du livre des Actes, Jésus est encore avec les disciples, il s'apprête à les quitter, et nous lisons, ceux qui s'étaient réunis lui demandaient, « Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu vas établir le royaume pour Israël ?» Il leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Toutes sortes de spéculations qui sont inutiles, puisque Jésus dit clairement qu'il n'appartient pas aux disciples de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Inutilité soulignée à de nombreuses reprises dans le contexte de notre parabole avec ces textes que nous avons lus précédemment, où il est dit à de nombreuses reprises que nul ne sait ni le jour ni l'heure. Il ne nous appartient pas de connaître le jour et l'heure du retour de Jésus. La part qui nous incombe, c'est d'être prêt. C'est la seule chose que le Seigneur nous demande. Prêt à tout moment, puisque ce retour est imprévisible. Prêt à tout moment, puisqu'à l'évidence, ce retour tarde. Et c'est le troisième point que je voudrais souligner maintenant. Un événement tardif, qui tarde à venir. L'époux a tardé et les 10 vierges se sont endormies. Ça fait maintenant plus de 2000 ans que Jésus est retourné au ciel. Ça fait maintenant plus de 2000 ans que l'Église attend le retour de Jésus. Un retour qui avait été annoncé comme imminent. Et pourtant, c'est un retour qui tarde. Il est important ici de comprendre que notre appréhension du temps n'est pas celle de Dieu. Et que 1000 ans sont à ses yeux comme un jour. C'est d'ailleurs en parlant du retour de Jésus que l'apôtre Pierre va utiliser cette expression dans sa deuxième épître. Non seulement en parlant du retour de Jésus, mais en disant qu'il tarde, en étant exactement sur notre troisième point. Et il écrit, il est cependant un point que vous ne devez pas oublier, bien-aimés. C'est que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le pensent. Il est patient envers vous. Il ne souhaite pas que quelqu'un se perde, mais que tous accèdent à un changement radical. Si le retour de Jésus nous apparaît comme tardif, c'est tout simplement parce que nous n'avons pas la bonne perspective des choses. Car pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. Si le retour du Seigneur nous apparaît comme tardif, ce n'est pas parce qu'il est retardé. Ce n'est pas parce que Dieu aurait oublié. Ce n'est pas parce que Dieu aurait changé d'avis. Mais c'est parce que Dieu désire que tous les hommes soient sauvés. Et c'est la raison pour laquelle il use de patience envers tous. Attention donc à ne pas trouver dans ce retard, entre guillemets, un prétexte, une excuse, une raison de baisser les bras et de cesser d'attendre. Un prétexte, une excuse, une raison pour penser qu'il n'est plus raisonnable d'attendre. Un petit peu à l'image de Janel dans l'histoire du commencement. Le quatrième point que je voudrais maintenant évoquer, alors j'ai pas trouvé d'adjectif, peut-être qu'il existe mais je le connais pas ou j'y ai pas pensé, que j'aimerais donc souligner concernant le retour de Jésus, c'est que c'est un événement qui demande de la préparation. Alors, y a-t-il un adjectif qui pourrait remplacer cette... je sais pas. Un événement qui demande de la préparation. Notre parabole le souligne très clairement. Souligne très clairement cette nécessité de la préparation. Il y en a 5 qui étaient prêtes et 5 qui pensaient l'être, mais qui ne l'étaient pas. Alors maintenant, il faut quand même répondre à cette question cruciale. Que veut dire se préparer? Et je dois d'abord commencer par dire que notre parabole n'aborde pas ce sujet. Elle ne dit pas, elle ne parle pas du comment. Ne dit pas comment se préparer, mais elle nous met en garde contre le risque d'être pris au dépourvu par manque de préparation. Notons aussi la vigilance nécessaire pour ne pas tomber dans l'allégorisation ici. Beaucoup l'ont fait. Et c'est souvent le piège dans lequel on tombe avec les paraboles, c'est qu'on commence à trouver toutes sortes de sens et d'explications à tous les détails du texte. Or, dans une parabole, les détails sont là pour faire vivre l'histoire, et l'histoire a toujours une vérité à enseigner et pas une multitude de petites choses. Et certains, par exemple, ont vu dans l'huile le Saint-Esprit, c'est vrai que c'est une image de cela dans la parole, les bonnes œuvres et toutes sortes d'autres choses qu'il faudrait avoir pour être prêt. Je ne pense pas que ce soit nécessaire de comprendre les choses ainsi. En réalité, je pense que l'huile n'est qu'un détail du texte pour rendre cette histoire cohérente et qui souligne la nécessité d'être prêt. Et c'est vraiment cela qu'enseigne notre histoire. Comment se préparer? En acceptant Jésus comme son Sauveur et son Seigneur. en mettant sa foi dans son œuvre de salut, en reconnaissant que l'on est pécheur et que seule la grâce de Dieu peut nous sauver, en demandant pardon à Dieu pour ses péchés, en devenant disciple de Jésus-Christ, en devenant membre de son corps, l'Église, qui est aussi son épouse et qu'il reviendra chercher. Cette préparation est indispensable. Et en nous appuyant sur notre parabole, nous pouvons dire qu'elle ne pourra pas être faite au dernier moment. Il y a un moment dans le temps de Dieu, un moment dans le temps de la grâce qui s'appelle trop tard. C'est pourquoi quand la Bible parle du salut, elle dit toujours que le jour du salut, c'est aujourd'hui et jamais demain. Jamais demain parce que demain ne nous appartient pas. Jamais demain parce que le retour de Jésus peut avoir lieu aujourd'hui et qu'il sera impossible de se préparer au dernier moment. Cela me rappelle cette légende que j'avais un jour racontée et qui rapporte que Satan se tenait pensif sur son trône entouré de toute sa cour. Et il pose cette question: qui veut aller perdre les âmes? Un des démons s'avance et dit: j'irai et je leur dirai qu'il n'y a pas de Dieu. Cela ne suffira pas, dit Satan. Les hommes savent qu'il y a un Dieu, ils ne te croiront pas. J'irai, dit un second démon, et je leur dirai qu'il y a un Dieu, mais qu'il est trop difficile à servir. Cela encore ne réussira pas, dit Satan, parce qu'ils chercheront en Jésus le pardon de leurs péchés et ils le recevront. Alors un troisième démon sortit des rangs et dit: je leur dirai qu'il y a un Dieu qui est juste et bon. Je leur dirai qu'ils peuvent entendre l'Évangile à satiété. Je leur dirai qu'il faut qu'ils se convertissent. Mais j'ajouterai, rien ne presse. Vous avez le temps. Il suffit que vous fassiez cela demain, pas aujourd'hui. Va, dit le prince des ténèbres, tu réussiras. Une des ruses certainement les plus efficaces de Satan, une de ces tromperies dont nous pouvons malheureusement vérifier l'étendue, est certainement de faire croire aux hommes que rien ne presse, qu'il sera bien assez tôt demain pour se soucier de ces choses-là. Je m'en occuperai demain, quand les enfants auront grandi, quand on aura fini de construire la maison, quand je serai à la retraite, quand j'aurai terminé mes études, quand je serai marié, demain. Et c'est ainsi que beaucoup repoussent à demain, c'est-à-dire à jamais, la décision du salut qu'ils devraient prendre aujourd'hui. Et un jour, dans le temps de la grâce, il y a un jour où c'est trop tard. Le retour de Jésus demande que l'on s'y prépare, et nous constatons avec notre parabole que la préparation de quelqu'un n'est pas transmissible à quelqu'un d'autre. Les cinq vierges folles ont voulu emprunter de l'huile aux cinq vierges sages qui ont refusé, non pas parce qu'elles étaient égoïstes, mais parce que la préparation pour le retour de Jésus, c'est une affaire personnelle. C'est quelque chose qui ne se transmet pas. Pas même des parents aux enfants. Non, il n'est pas suffisant d'être né dans une famille chrétienne, une famille croyante, une famille pratiquante, une famille qui vient tous les dimanches à l'église. Il n'est pas suffisant de fréquenter l'église avec assiduité. Il n'est pas suffisant d'être bon, généreux, d'avoir beaucoup d'œuvres à son actif. Il n'est pas suffisant de faire toutes sortes de sacrifices pour Dieu. Il n'est pas suffisant de connaître et de fréquenter des personnes qui sont prêtes. Et beaucoup se trompent de préparation et pensent être prêtes pour toutes les raisons que je viens de citer et bien d'autres encore. Et à l'instar des cinq vierges folles de notre histoire, entendront un jour le Seigneur leur dire « Je ne vous connais pas ». Et cette triste réalité, Jésus en parle à d'autres endroits. Et il en parle en particulier à la fin du sermon sur la montagne, en parlant de tous ceux et de toutes celles qui, lors de son retour, feront valoir toute une série de bonnes choses qu'ils ont accomplies au nom du Seigneur, qu'ils ont fait pour le Seigneur, mais qui ne sont pas la préparation adéquate. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas par ton nom que nous avons parlé en prophète ? Par ton nom que nous avons chassé des démons ? Par ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles ?» À l'évidence, c'est le cas. Alors je leur déclarerai, « Je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui faites le mal. » La préparation pour le retour de Jésus est une affaire personnelle que personne ne peut faire pour quelqu'un d'autre. Et je peux avoir fait toutes sortes de choses extraordinaires dans ma vie, comme ce que disent ces versets. Mais ce qui compte avant tout, c'est d'être prêt. Et être prêt, c'est être un enfant de Dieu, c'est être un disciple de Jésus-Christ par la foi. À ce stade de ma préparation, ça m'a fait penser à une autre histoire, qui est une histoire vraie et tragique, et qui est arrivée en 1988 aux États-Unis, et c'est l'histoire d'un photographe, parachutiste aguerri, qui avait à son actif des centaines et des centaines de sauts, et qui a sauté ce jour-là avec un groupe de parachutistes, les skydivers, qui font de la haute voltige, et qui sautent avec eux pour les filmer. Et on peut voir toutes sortes de vidéos, comme celle-là sur YouTube, par exemple. Et donc, notre homme a sauté en premier, pour pouvoir filmer tous ces parachutistes qui sautaient les uns après les autres, et qui faisaient toute leur figure ensuite. Et donc, il a filmé, et ils ont sauté, et puis ils ont fait toutes leurs belles figures. Et ensuite, une fois qu'ils avaient terminé leur programme, il était temps d'ouvrir les parachutes, et l'un après l'autre, ils ont tiré la poignée, les parachutes se sont ouverts, et lui devait être le dernier à tirer la poignée de son parachute, puisqu'il devait pouvoir les filmer tous jusqu'à la fin. Et quand ce fut son temps, le moment pour lui d'ouvrir son parachute, c'est là qu'il s'est rendu compte que dans sa précipitation, il avait oublié d'enfiler son parachute. Et la vidéo qui a pu être récupérée montre ensuite, pendant très peu de secondes en réalité, les images de panique qui ont précédé l'impact mortel. Cet homme-là pensait être prêt pour ce qu'il était en train de faire. Il l'avait fait des centaines, des milliers de fois. Il pensait être prêt jusqu'au... Mais il ne l'était pas. Mais jusqu'au dernier moment, il a agi dans l'insouciance de celui qui croit être prêt. À l'instar de ces cinq vierges folles qui, jusqu'à la fin, pensaient que tout était bien. Mais la réalité, c'est que rien ne pouvait remplacer ce parachute manquant. Rien ne pouvait changer la réalité de ce qui était en train de se passer. Il n'était pas prêt. Le retour de Jésus demande de se préparer. Et la préparation est personnelle, non transmissible. Et puis c'est mon dernier point, elle est aussi décisive. C'est un événement décisif. Décisif parce que déterminant. Décisif parce que, si nous donnons foi à notre texte et à la Bible tout entière, seuls ceux qui sont prêts, qui seront prêts, entreront avec l'époux. décisive parce que ceux qui ne sont pas prêts resteront en dehors, dans les ténèbres du dehors. Décisive parce que le moment venu, il sera trop tard pour se préparer. Décisive parce qu'il n'y aura pas de deuxième chance. Décisive parce que le retour de Jésus correspondra au trop tard de la fin du temps de la grâce. Alors permettez-moi d'être direct avec vous et de vous poser la seule question qui s'impose à la fin de ce message. Êtes-vous prêt ? Êtes-vous prêt pour le retour de Jésus ? Si Jésus revenait maintenant, aujourd'hui, entrerez-vous avec lui dans la joie de son règne ? Ou resterez-vous dehors ? Si Jésus revenait aujourd'hui, que vous dira-t-il ? Viens, entre, bon et fidèle serviteur, dans la joie de ton maître ? Ou alors, je ne te connais pas. Le Seigneur nous aide, chacun, à bien entendre et à bien comprendre le message de notre parabole, qui nous invite chacun à nous préparer pour le retour du Seigneur. Amen. Je vous invite à quelques instants de silence.